Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en compagnie de Clémence Latasse. Bonjour.
Bonjour.
Bon, c'est pas la première fois que tu passes à la radio, mais on va faire un rappel quand même de ce que tu fais.
Ouais, comment résumer ? En gros, je suis formatrice en communication consciente. C'est basé sur la communication non violente pour ceux qui connaissent. Et je propose des ateliers sur 10, des stages, des formations pour des professionnels aussi, des équipes. Et là, en l'occurrence, fin janvier, je vais proposer une conférence aux rencontres de l'écologie. Ouais. Voilà, il y a un atelier aussi.
C'est pour ça que tu es avec nous. Et donc, on va détailler un peu la communication non violente. C'est quelque chose que tu as appris, tu as passé un diplôme, tu as quelque chose pour former vraiment. Enfin, c'est...
Ouais, alors,
on imagine qu'il y a...
Et ben justement, moi, je suis en cours de certification, selon le terme du réseau, quoi. Donc, ça veut dire que je suis formatrice dans ce domaine déjà depuis 6-7 ans. Mmh. Mais après, voilà, c'est tout un parcours pour être certifiée et avoir en quelque sorte un diplôme pour être reconnue. Et donc, bah, moi, je suis en plein milieu de ce parcours-là. Voilà.
Qu'est-ce qu'on entend par communication non violente ?
Alors... communication.
Rapidement, hein,
ouais, alors rappel. Parce que je peux te faire 2 jours de stage dessus, mais
bah oui.
En gros, communication, c'est comment je m'exprime clairement, honnêtement, en disant vraiment ce qui est important, et comment j'écoute l'autre. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Et c'est-à-dire que des fois, on va privilégier l'écoute de l'autre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de conflits, pour les gens qui sont plutôt qui ont un peu peur des conflits et qui ne veulent pas faire trop de vagues, mais ils ne se respectent pas, parce qu'ils n'expriment pas ce qui est important. Ou bien on va être beaucoup dans l'expression cash et en fait en faisant beaucoup de dégâts dans la relation et sans écouter vraiment ce que l'autre vit. Donc l'idée de la communication non violente, c'est d'essayer de trouver comment j'apprends à exprimer ce qui est important pour moi tout en prenant en compte l'autre et en essayant de parler de moi. Et comment j'écoute vraiment aussi ce que l'autre y vit.
Est-ce que ça empêche justement d'utiliser des mots violents aussi ?
Je dirais que ça n'empêche pas.
Ou le langage cache, ce que tu disais tout à l'heure.
Ben, pour moi, ça, c'est juste que quand j'ai conscience des conséquences de ce que ça peut faire, en fait, les mots, les jugements, les mots violents et tout, c'est juste qu'après, je ne peux pas me plaindre que ça foire dans la relation, tu vois. Je ne peux pas me plaindre que l'autre, il me renvoie la même chose. Et du coup, c'est juste prendre conscience que je joue au jeu auquel j'ai choisi de jouer. Si je joue au jeu de « je balance des reproches », l'autre, il va jouer au même jeu. Et si j'ai envie de jouer à un autre jeu et si j'ai envie, hein, c'est vraiment une question d'envie. Si j'ai envie que ça se passe, j'ai envie de mettre de l'énergie pour que ça se passe bien avec l'autre, j'ai un autre choix. Et du coup, moi, ça veut pas dire qu'aujourd'hui je dis jamais de reproches ou d'insultes. C'est juste que je sais la conséquence que ça va avoir en fait sur l'autre. Donc je prends ma responsabilité. C'est plus ça.
C'est là que ça devient une communication consciente alors.
Voilà.
Pour faire la différence entre les deux, est-ce qu'on peut être que dans la communication non violente? Ou alors, on prend conscience que, oui, on peut jouer à des jeux.
Ouais. Pour moi, disons que ce terme de communication non violente, il est assez opaque. Et donc, c'est pour ça que je préfère appeler communication consciente. Parce que pour moi, en fait, j'ai toujours le choix. Et je peux choisir de communiquer violemment. Mais je sais ce que je vais provoquer, en fait, ce que je vais créer. Donc oui, moi, je suis plus favorable à appeler ça conscient. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça qui compte. C'est une fois que j'ai conscience, je peux choisir. Mais quand je n'ai pas conscience, je ne peux pas choisir. En fait, je reproduis juste ce que j'ai appris. Et si j'ai appris à communiquer avec des reproches, avec des jugements, avec de la violence, parce que j'ai grandi là-dedans, je vais le faire. Mais je ne choisis pas, en fait.
Est-ce qu'on peut, à un moment donné, réellement se prémunir de la violence, par exemple, de l'autre, dans le cadre d'une relation de travail, de couple, peu importe, en étant soi-même conscient, en ne tombant pas dans un piège, en ne jouant pas à un jeu particulier ? Si l'autre n'a pas envie de changer, est-ce qu'on ne s'épuise pas ?
Pour moi, on ne peut pas se prémunir, mais on peut choisir comment on va prendre le message. Et ça, pour moi, ça change tout. C'est que j'ai le choix de prendre le message comme étant vrai. Imaginons, dans un couple, mon compagnon me dit « t'es égoïste ». Eh bien, j'ai le choix, en fait. Soit je prends ça, je me dis, ah ouais, c'est vrai, il a raison. Et alors, je vais jouer au même jeu que lui. J'ai raison, t'as tort, en gros. Et je vais essayer de le convaincre.
Ou tu deviens une victime.
Ou je deviens victime, voilà. Et donc, bah, dans les deux cas, c'est pas agréable. Je subis ou je vis un truc conflictuel. Ou bien j'ai le choix, mais qui est difficile et qui demande voilà, de, vraiment des ressources, de se dire, bah non, en fait, ce que lui il me dit, en fait, là, dans T'es égoïste, ça parle de lui, ça parle de ce qui est important pour lui, mais qu'il n'arrive pas à me dire autrement. Et donc, le processus par lequel on passe, ça va être de voir d'abord qu'est-ce que ça me fait d'entendre T'es égoïste, parce que je ne peux pas être Bouddha et me dire, c'est bon, ça ne me fait rien. Non, ça me fait quelque chose, forcément. Ça fait réagir un truc. Et le réflexe, c'est que j'ai envie de réagir, soit de me justifier, soit de lui dire, attends, tu t'es vu, toi, t'as vu quand tu fais ça, c'est pareil, t'es égoïste. Donc ça, c'est le réflexe, ça, c'est ce qu'on a appris. Et donc, c'est plus de l'ordre éducationnel ou culturel. Et après, pour moi, la communication non violente, elle nous apprend à défaire, désapprendre et réapprendre un nouveau mode. Et le nouveau mode, ça peut être, bah, je vois qu'est-ce que ça me fait. Il me dit, t'es égoïste. Soit je réponds pas tout de suite et je dis, bah, écoute, là, en fait, pause. En fait, si je te réponds, je vais te balancer la même chose. Donc, pause, soit je pars et je vois et je me dis, bah, qu'est-ce que ça me fait. Ça m'énerve parce que j'ai envie d'être vue dans ce que je fais ou dans ce que je donne. Et il y a aussi, je suis triste parce que ça me met de la distance avec la personne. Et il y a aussi, bah, je suis triste parce que j'ai envie juste d'être aimée, quoi. On a tous envie d'être aimée et quand quelqu'un nous balance un jugement, on a l'impression de ne pas être aimée. Donc d'aller voir un peu plus profondément ce que ça touche pour être capable de se rendre compte que, en fait, ça touche à un endroit vulnérable en nous et l'autre, il vient appuyer sur cet endroit. Mais que l'autre, il n'est pas coupable, en fait, de ce qui se passe pour nous. Et une fois qu'on a fait ce processus-là, bah, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe pour lui aussi, quoi. De se dire, bah, s'il me dit t'es égoïste, c'est peut-être que lui, il a quelque chose qui le satisfait pas dans la situation. Et donc lui demander, bah, est-ce que t'es dégoûté parce que, je sais pas, t'as envie de plus de considération ou t'as envie de plus de liens ou de partager plus de choses. Et donc là, en fait, on va vraiment aller voir c'est quoi le cadeau qui est derrière son jugement. En fait, c'est un cadeau dans le sens où il est en train de nous parler de lui maladroitement et donc d'essayer de traduire. Et pour moi, c'est tout un travail de se relier, d'essayer de, on appelle ça aller sur sa colline. C'est-à-dire pas rester sur la mienne et puis le regarder de loin et puis pas comprendre et d'aller vraiment sur sa colline et me demander qu'est-ce qui se passe pour toi et de traduire. Ok, tu dis t'es égoïste, donc est-ce que voilà, t'as envie de lien et t'es triste parce qu'il n'y a pas de lien en fait et que t'as l'impression que t'es tout seul. Et en fait, c'est ça le cadeau. Et le cadeau, c'est bah ok, mais moi ça me touche quand je t'entends parce que j'ai aussi envie d'être en lien avec toi, j'ai aussi envie de partager, donc comment on fait? Et après, à partir de ça, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et évidemment, si l'autre il a pas envie de jouer à ce jeu-là, eh ben on peut pas le forcer en fait. Donc
Il peut même se rendre compte que tout d'un coup il y a une espèce de travail psy qui se fait, enfin psy à la fois pour la personne qui se rend compte, qui se place, j'allais dire en disant bon bah non, je ne vais pas juger le fait que tu m'aies jugé et on va en rediscuter. C'est aussi difficile. Beaucoup de gens en campent sur.
Bah oui, c'est clair. Et donc ça demande à vérifier que l'autre il a envie de ça aussi, parce que c'est sûr que ça peut.
Alors
être
est-ce qu'on l'explique d'abord? Est-ce qu'on dit bah voilà, moi en tout cas j'ai envie d'évoluer dans ce cadre-là et donc ça sous-entendra qu'à un moment donné on se pose les questions quand on se juge ou.
Bah en tout cas oui, ça peut être de partager à la personne. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de vivre dans une relation. Et je pense que dans toute relation. Déjà de couple, à mon avis, c'est une base quoi, de vérifier est-ce qu'on a les mêmes envies. Et voilà, et peut-être, et si c'est pas le cas, alors autant se dire, bon, bah, peut-être on n'a pas les mêmes bases et c'est pas grave en fait. Et sinon, dans des relations plus, je dirais, professionnelles ou d'amitié, c'est juste de voir. Bon, professionnel, des fois, on travaille avec des gens et puis bah, c'est comme ça.
On ne peut pas faire autrement.
Il y a un côté, on aime son travail et puis il se trouve qu'il y a un collègue ou une collègue avec qui ça passe pas trop. Et bien là, en fait, c'est juste se dire que. On va faire ce travail déjà pour soi, en fait, parce qu'on ne peut pas imposer à l'autre. Et en fait, plus on va essayer de faire quelque chose sur l'autre, plus ça va être catastrophique, parce que forcément, comme tu dis, l'autre, il se rend compte qu'on essaye de faire quelque chose sur lui. Et donc, pour moi, c'est vraiment d'abord, avant d'être un travail avec l'autre, de communication au sens dialogue, c'est avant tout un travail avec soi, en fait, de se dire qu'est-ce que ça me fait, pourquoi je réagis, qu'est-ce qui se passe pour moi, de quoi j'ai envie, pourquoi ça ne me va pas. Et plutôt que de directement mettre la faute sur l'autre et de dire bah, « c'est parce qu'il est comme ça ou parce qu'elle est comme ça, et donc voilà, c'est mort. Tant qu'elle ne changera pas, ça ne changera pas. » Et du coup, là, on est dépendant en fait, de l'autre, parce qu'on attend que l'autre change pour que ça aille mieux. Et en fait, c'est impossible, puisque l'autre, on n'a aucune possibilité de le changer. Donc pour moi, ce processus, c'est une manière de retrouver un peu de souveraineté dans notre vie, quoi, de capacité d'agir. un endroit où on pensait qu'on n'en avait pas, en fait. Et de se dire, bah si, j'ai le choix de réagir autrement. Voilà.
Quitte à accepter après que cette personne continue à avoir ce comportement-là, mais que finalement, tel Bouddha, ça ne nous touche plus.
Non, mais... Voilà. Non, mais c'est ça. C'est de se dire, bah si, j'ai pas le choix, comment je peux faire pour que ça soit moins pire, en fait. Et il y a des possibilités, plutôt que de remettre la faute sur l'autre. Et en fait, ça envenime juste la relation, au lieu d'apaiser. Parce qu'au fond, ce qu'on veut en général, c'est qu'on a envie que ce soit fluide avec les gens.
Avec la communication non violente ou consciente, on clash jamais du coup. Est-ce
ah
que
si.
C'est possible? Justement là, dans le cadre d'un travail, ça peut être des situations qui font soit burner, soit partir. Enfin, en couple aussi, on se quitte. Il y a des fois des situations qui sont. Donc du coup, est-ce que ça peut repousser ça? Enfin, je questionne la concession là-dedans. Hein. Ouais. À un moment donné, on se dit bon bah voilà, il est comme ça, il est comme ça. Et puis moi, ça me touche plus.
Ben, moi, je dirais que non. Enfin, c'est pas magique. C'est que ça apaise des relations. Et des fois, je dirais, des fois, quand l'autre a envie, c'est magique. Franchement, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut, comment on peut transformer une situation, comment on peut la faire passer de on est super loin, on se comprend pas, on n'a pas envie d'être en lien, on n'a pas envie de parler à l'autre. Et comment, petit à petit, le fait de se comprendre, ben, on se rejoint et on se rapproche. Et là, c'est magique. Mais il y a d'autres situations où c'est pas magique. Et juste. Il y a des situations où vaut mieux arrêter son travail, vaut mieux arrêter la relation, vaut mieux juste couper. Parce que des fois, il n'y a pas... Comment dire? Ça demanderait tellement d'énergie, tu vois, tellement de temps, d'énergie pour essayer, qu'en fait, des fois, ça vaut juste pas le coup, dans le sens où ça va pas...
Comment on s'en rend compte que ça va nous prendre trop d'énergie?
Bah moi, j'ai l'impression qu'on s'en rend compte quand on commence à trop se poser de questions, à trop tourner le truc dans tous les sens et à pas trouver d'issue et à ce que ça prenne vraiment beaucoup de place dans le quotidien, dans sa vie, dans tout, si c'est dans une relation professionnelle, par exemple, que ça prend toute la place dans notre vie perso, qu'on y pense tous les jours, qu'on se lève le matin avec la boule au ventre et qu'on ne sait pas comment on va faire pour tenir la journée. Enfin, c'est quand ça atteint un niveau de stress, un niveau d'angoisse tel qu'on n'a même plus la capacité de savoir ce qu'on veut. Pour moi, c'est quand ça arrive à ce stade-là que ça veut dire que là, faut juste prendre un temps de recul, soit prendre un grand temps de recul, soit décider d'aller dans une autre direction parce qu'il y a un moment où on perd des plumes, quoi. Et que du coup, on se respecte plus dans ses limites. Voilà.
Donc, c'est pas miracle, hein. C'est bien de l'avoir dit.
Non, c'est pas miracle. C'est pas miracle, mais ça peut grandement aider, en fait, soutenir. Moi, je dirais que ça soutient à ne pas envenimer des situations avant que ça devienne inextricable. Parce que
comme on dit, ne pas donner de grain à moudre, quoi.
Voilà, c'est ça. Et c'est aussi pour moi choisir de fonctionner différemment, en fait, choisir, trouver les outils et les compétences pour arriver à relationner ce qu'on n'a jamais appris, en fait. On n'a jamais appris vraiment à relationner. C'est, on nous transmet des trucs implicitement et voilà, on fait avec. Mais en fait, concrètement, il y en a de plus en plus, par exemple, dans les écoles.
Mais faudrait-il un modèle, d'ailleurs? Ah ouais, des cours d'empathie.
D'empathie, c'est juste pour moi développer des compétences qu'on a quand on est, qu'on a en tant qu'enfant. C'est juste soutenir les enfants à ce qu'ils gardent leurs compétences. Ces compétences qu'on a innées, de manière innée, de comprendre l'autre, de se relier à l'autre, d'avoir envie de l'aider, d'avoir envie de le soutenir. Ça, c'est des choses qu'on a de manière innée. Mais juste qu'on nous fait grandir dans un système qui est basé sur la compétition et où, du coup, on ne développe pas du tout ces compétences-là. On développe comment être le meilleur, comment défoncer l'autre, comment prouver que c'est moi qui vaut quelque chose et que l'autre, il vaut rien. Parce que si l'autre, il vaut quelque chose, alors moi, je suis pas assez vue. Enfin, voilà. Et donc, en fait, on apprend juste ça, à être dans la compétition. Et ça ne développe pas des compétences qu'on a, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est redévelopper des compétences qu'on a qui nous permettent de fonctionner ensemble d'une manière qui soit juste plus agréable, quoi. Voilà.
Voilà, communication non violente, ça voulait pas dire, comme beaucoup le pensent, une espèce de truc où on se dit jamais non, où on n'est pas...
Non, complètement, c'est pas du tout ça. Après, c'est sûr que comme c'est un changement de fonctionnement, ça passe par des étapes. Et donc, quand on réapprend ou quand on désapprend, on passe par des étapes où on va dire moins non, où on va moins s'exprimer, on va plus s'écouter. Mais en fait, l'idée de ce processus, c'est pas du tout de... C'est même limite de dire plus, en fait, là où on n'est pas d'accord, mais de le dire d'une manière constructive. Mais et donc ça demande vraiment beaucoup de pratique et d'intégration, quoi. C'est pas juste une technique ou un outil, en fait. C'est vraiment quelque chose que, comme un art martial, comme quelque chose qu'on va vraiment entraîner, intégrer pour que ça devienne fluide. Mais ça prend du temps, en fait.
Voilà. Et est-ce que ça passe par une bonne connaissance du panel des sentiments ? Parce que j'imagine qu'on a un peu de mal, des fois, à identifier qu'est-ce qui est en train de nous toucher, qu'est-ce que ça nous fait.
C'est aussi apprendre tout un vocabulaire qu'on connaît pas, de sentiments. Que la plupart du temps, quand on nous demande comment ça va, on répond « ça va ». Voilà,
oui,
déjà.
Ça, c'est le truc dans la rue.
Bon. Ça, c'est, voilà, la politesse.
Bon, en même temps, si tu dis que ça va pas, après, les gens, ils te demandent et t'as pas forcément envie de discuter avec eux.
C'est ça. Mais donc, du coup, c'est juste qu'il y a très peu d'espace, en fait, où on va pouvoir vraiment dire comment ça va vraiment. Et donc, on n'a pas le vocabulaire pour exprimer ce qu'on ressent. Et ou alors, on va dire, je suis saoulée, je suis en colère, je suis triste. Voilà. J'ai peur, je suis content.
Ils sont classiques, oui.
Voilà, c'est vrai. Ça, c'est les basiques. Mmh. Mais après, il y a plein de subtilités dans ce qu'on ressent. Et en fonction de cette subtilité, ça nous donne des informations sur qu'est-ce qui se passe. Si je suis super en colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est super important, qui n'a pas été pris en compte. Si je suis un peu énervée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... un petit truc, voilà.
Et la différence entre énervée et agacée, par exemple ?
Non, mais je fais exprès.
Non, parce qu'il y a tellement de nuances et il faut que l'autre le comprenne aussi, ces nuances-là. Fin...
Ouais, c'est sûr. Et c'est clair qu'au début, c'est pas habituel, en fait, d'entendre quelqu'un utiliser un mot qu'on a peut-être entendu 3 fois dans sa vie. Donc, ça demande du temps aussi pour
Donc, de se définir l'un l'autre.
De se définir
qu'on comprenne bien les mots. Ouais, okay.
Et après, pour moi, c'est vraiment au-delà des mots, cette pratique, ce processus. C'est les mots, on les met pour essayer de se faire comprendre et pour avant tout essayer de se comprendre. Parce que ça, le fait de passer par les mots, des fois, ça aide à comprendre, à voir avec du recul. Mais en fait, c'est pas les mots qui comptent. On pourrait le dire sans mots, on pourrait le dire dans une autre langue. C'est plus l'intention. C'est quoi mon intention avec l'autre ? Est-ce que mon intention, c'est de le convaincre, de le faire changer ? Ou est-ce que mon intention, c'est qu'on se comprenne ? Et c'est ça vraiment l'intention de ce processus. Et c'est pour ça que des fois, il est utilisé d'une manière détournée. Et que moi-même, des fois, je le fais sans m'en rendre compte. J'utilise d'une manière détournée. Et puis après, je me dis, mais là, je suis complètement à côté de la plaque. Je suis en train d'utiliser un marteau pour taper sur quelqu'un au lieu de taper un clou. Et du coup, ça fait mal, en fait. Alors que la base, c'est un outil qui sert à faire plutôt du bien.
C'est toute la question des différents entraînements mentaux de ce type-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut s'en servir pour manipuler les gens aussi.
Oui, c'est ça. Et du coup, c'est être vigilant. C'est pour ça que c'est être vraiment vigilant, revenir toujours à l'intention. Quelle est mon intention quand je le fais, quand je l'utilise ? Et que pour moi, ce n'est pas un outil que je vais utiliser pour obtenir quelque chose. Et même si, des fois, on peut se rendre compte après coup que « Ah bah merde, je l'ai utilisé pour obtenir quelque chose », mais ça fait partie pour moi du chemin et de l'apprentissage, en fait. Et qu'à un moment donné, on réalise que qu'on était à côté.
Il existe des maîtres de la communication consciente. On y connaît avec Bouddha tout à l'heure, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment atteint ça ?
En fait, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des gens qui ont atteint quelque chose, mais en tout cas qui ont peut-être un peu plus intégré. Et oui, je pense que, par exemple, celui qui l'a développé, qui s'appelait Marshall Rosenberg, lui, il était... je ne l'ai pas connu, moi, mais... et pourtant, il était quand même super cash aussi dans sa manière de dire les choses. Mais il y avait juste toujours cette intention de prendre en compte l'autre. Et du coup, du moment qu'il y a cette intention, l'autre, ça ne veut pas dire qu'il va recevoir facilement un non, qu'il va recevoir facilement un « je ne suis pas d'accord, ça ne me va pas » et tout ça, parce que dans ce processus-là, ça ne veut pas dire, comme tu disais, qu'on va dire oui à tout, qu'on va comprendre tout. Oui, on peut comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on approuve ou qu'on valide ou qu'on n'est pas contre certains comportements, en fait. Mais
c'est qu'on des valeurs peuvent continuer à être heurtées, malgré tout.
Et qu'on va on va juste aller voir derrière le comportement. C'est-à-dire qu'on peut dire non à un comportement, mais par contre, comprendre le pourquoi. La personne, elle a fait ça. Ce qui est complètement différent que de dire « Non, ton comportement, c'est de la merde, donc tu es de la merde. » Je résume, mais c'est, en gros, c'est ça que la personne, elle reçoit. Quand je lui dis « Ça va pas comment tu te comportes », elle entend « Ça va pas qui tu es ». Et dans ce processus, c'est se dire « Je suis pas d'accord avec ton comportement parce que ça respecte pas telle et telle valeur pour moi, peut-être de considération, d'intégrité. Mais par contre, je peux comprendre pourquoi tu le fais. Et là, à cet endroit, je peux avoir de la compassion et te rejoindre et puis du coup aller au-delà en fait et pas m'arrêter à un comportement.
C'est dur, hein ?
Ouais.
Le dimanche 26 janvier, dans le cadre des rencontres de écologie au quotidien. Alors le thème cette année, c'est s'entraider, coopérer ici et ailleurs. Alors bon, ça rentre bien.
Ouais, c'est ça.
Une conférence donc de 9h à midi. avec toi, Clémence. Et si ton jugement était un cadeau, tout ce qu'on vient de dire...
Voilà, tout ce qu'on vient de dire, on va le voir là. Je vais proposer des exemples. Et je vais inviter surtout les participants à expérimenter. Et donc, je vais leur proposer de penser à un jugement qu'ils ont sur quelqu'un, concrètement. Là, dans leur vie au quotidien. Et de pouvoir prendre le temps d'aller balancer tous les jugements. Donc, on ne va pas dire qui c'est, mais juste avoir de la joie, en fait, à oser. Parce qu'en fait, ce qui est sournois dans les jugements, c'est qu'on juge nos jugements. Donc, en fait, on se juge de juger, donc on ne juge même plus. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, je ne me juge pas de juger, mais j'y vais à fond. Parce qu'en fait, je sais que ce n'est pas la vérité. Je sais que derrière mon jugement, il y a autre chose. Donc, j'y crois pas, mais j'y vais à fond. Donc là, je vais les inviter à aller dire tout ce qu'ils pensent de quelqu'un. Et surtout, dans la deuxième étape, c'est ça qui est important, parce que si on en reste là, ça n'a pas trop d'intérêt. Hein. Bon, c'est un truc qu'on peut faire tout seul. Deuxième étape, ça va être d'essayer de traduire qu'est-ce que ça veut dire de moi, en fait. Et de reprendre sa responsabilité, parce que là, c'est comme si on mettait tout sur le dos de l'autre. Et de reprendre sa part de responsabilité, c'est-à-dire que si je juge quelqu'un, c'est qu'il a peut-être fait quelque chose qui ne me plaît pas, donc ça, ok, c'est sa responsabilité. Mais par contre, comment moi je le prends, c'est ma responsabilité. Et donc là, on va traduire, on va se demander ce que j'ai fait là, comment je me sens quand la personne elle fait ça ou elle dit ça, et qu'est-ce que ça parle, en quoi ça parle de moi, de ce qui est important pour moi. Voilà, et donc ils vont faire des binômes et essayer de jouer à ce jeu qu'on appelle chacal party, parce qu'on parle du chacal et de la girafe, mais peut-être j'en dirai plus dans la conférence.
Ouais, le chacal a une mauvaise réputation.
Ouais, mais justement...
C'est le vilain.
Ouais, mais justement, le chacal, c'est de le regarder avec un autre œil, en fait, et de comprendre pourquoi il est chacal, et de se rendre compte qu'il a juste pas conscience de pourquoi il est chacal.
Et c'est intéressant, cette histoire de jouer, parce que finalement, dans le jugement, on est rarement très ludique. On est plutôt méchant ou radical. Jouer à se juger.
Voilà, pour moi, c'est une forme aussi d'autodérision, de prendre du recul sur nous-mêmes, en fait, de se détacher de notre part qui juge, de notre chacal, et de le regarder et de lui dire « Oh, chouchou, t'as un truc super important à transmettre, mais tu sais pas le faire autrement, donc tu juges. » Et d'essayer de l'écouter vraiment.
Voilà. Alors, cette conférence, t'en fais régulièrement des conférences ?
Non, pas très souvent. Des conférences, je fais plus des ateliers ou des formations.
Du coup, quelle forme elle va avoir ?
Eh ben, ça va être un temps où je vais proposer un peu cette vision, ce nouveau regard-là, avec quelques exemples. Et puis après, vous va y avoir ce temps de participation. Moi, je vais donner aussi des exemples perso. Ouais. Et...
C'est pas un truc qui va être très,
magistral.
Magistral.
Non,
voilà,
c'est pas du tout magistral. C'est justement, c'est pas ce que j'aime du tout être dans du magistral et je vais pas. Je vais apporter quelques concepts, tu vois, quelques concepts théoriques, mais ça va être quand même beaucoup sur de la pratique, du concret.
Donc c'est à la salle de l'espace communal, ça veut dire que tu peux accueillir beaucoup de monde pour cette histoire.
Oui.
Oui,
ouais, c'est ça. Donc c'est on va voir.
On peut être plein.
On peut être plein. La fois je l'ai fait, on était une cinquantaine et. C'était il y a 2-3 ans, je crois, maintenant.
C'est toi qui as proposé, ouais, ceux qui sont venus te chercher
C'est moi qui leur ai proposé. J'avais déjà fait, donc, du coup, une conférence il y a 3 ans, mais j'ai un doute. Et je suis revenue vers eux en leur demandant si ça les intéressait que je repropose une conférence. Et c'est vrai que ça rentre complètement dans le thème de cette année aussi, de la coopération, quoi. C'est clairement ça. On va vers ça, l'intention, c'est la coopération. Voilà. Et l'entraide, elle est basée aussi sur la compassion. Et du coup, comment on peut être dans la compassion et dans la compréhension de l'humain en face? Pour moi, c'est une des clés, quoi, ce travail-là.
Ton public, il est multiple des deux sexes, majoritaire
Non, il est quand même beaucoup féminin.
Pourquoi selon toi?
Je ne sais pas. Je dirais que mon hypothèse, c'est que... Plusieurs hypothèses, c'est que je pense que les femmes, on a été plus éduquées à être sensibles avec nos émotions, enfin à accueillir nos émotions. Et je pense que du coup, quand on entend émotion, ça nous fait pas trop peur. Enfin, ça dépend quoi, mais c'est plus connu. Et j'imagine que pour les hommes, c'est juste un peu moins connu. Et après, voilà, et je pense que du coup, il y a aussi de manière... juste dans le féminin, il y a quelque chose de plus réceptif et qui va être plus sensible a priori, à l'écoute. Et je pense que ce n'est pas une question de femme ou d'homme, mais plus de est-ce qu'on a développé notre côté sensible ou pas, en fait, féminin, réceptif ou pas. Et je dirais que c'est... Enfin, ça, c'est ma théorie, hein, mais je ne sais pas si c'est
réceptif,
vrai.
Réceptif, féminin, voilà, c'est déjà, c'est un point de vue. Mais...
Voilà, oui, c'est
en
ça,
tout
c'est
cas,
un point
ce
de vue.
Côté réceptif.
Ouais.
Et le rapport de domination, tu ne penses pas qu'il joue là-dessus ? le fait que c'est compliqué dans notre... On va parler de la société française, juste ça. Pour beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes aussi, dans un modèle d'éducation qui nous a un peu bloqués, de se considérer au même niveau.
Mm-mm. Ouais, c'est vrai. C'est pas
ça demanderait aux hommes, à ceux-là, en tout cas, de rabaisser un peu leur garde à venir à ta conférence.
Ouais, c'est sûr. Ça demande de se regarder, quoi. Et du coup, de regarder nos comportements. Et peut-être que oui, c'est confrontant, ça, c'est clair.
T'as ce type de retour ? Les gens qui vont dire oh là, mais moi, en fait.
Ah, c'est confrontant. Ah, ouais, c'est clair. Et du coup, bah, des fois on est prêt, des fois on n'est pas prêt à aller se confronter à soi-même.
Bon, bah on prévient alors.
Ouais, ah oui, c'est clair que les gens soient prêts à savoir que c'est confrontant. Bon, cette conférence-là, elle n'est pas vraiment confrontante. Un petit peu. On va aller titiller, c'est un peu confrontant d'aller regarder ses jugements. D'aller oser se dire ah, ok, en fait, qu'est-ce que ça dit de moi en fait Déjà, c'est confrontant d'oser tourner le regard de l'autre à nous-mêmes. Ça, c'est un peu confrontant parce que. Se regarder soi, c'est pas toujours évident, en fait. Voilà. Donc oui, il y a un côté confrontant. Et après, c'est sûr que ce processus-là, il est confrontant dans le sens où il demande aussi d'aller prendre conscience de certains comportements qu'on a, ou qu'on a eu, ou qu'on a reçu. Et donc, des fois, ça touche à des endroits sensibles, en fait, qui font mal, quoi. Donc ouais.
Ouais, la part psy, là-dedans...
On est dans du psy total. Bah, Marshall Rosenberg, c'était un psychologue, quoi. C'est vraiment le fondement de cette pratique-là. Mais après, on va choisir. Est-ce qu'on va à quelle profondeur on va dans le côté psy aussi. Mais pour moi, il y a forcément un impact, quoi, sur notre. On parle d'émotion, donc forcément, quoi. On va faire bouger des choses. Et donc, il y a un aspect forcément. On va dire thérapeutique, souvent on me demande, mais c'est de la thérapie. En fait, les stages, c'est une approche, c'est un nouveau regard. Et après, on va choisir ou pas d'aller dans le travail que ça va demander. Et donc, dans de la thérapie. Mais la thérapie, c'est rien d'autre que regarder les endroits où j'ai mal et aller soigner, en fait. Et du coup, il n'y a pas un truc sacré là-dedans ou mystique, quoi. C'est juste, est-ce que j'ai envie de me soigner ? Parce que c'est sûr que les blessures psychologiques, elles ne se voient pas. Elles ne sont pas visibles. Mais il n'y a personne qui va dire à quelqu'un qui va chez un médecin ou qui va aux urgences, pourquoi tu vas guérir ta blessure ? C'est bon, tu peux vivre avec. Non, pour moi, c'est pareil, mais sauf que ça ne se voit pas. Donc, on trouve ça peut-être plus étrange, plus inconnu. Mais pour moi, c'est juste ça. C'est de dire, est-ce que je prends soin de moi et que je vais aller guérir mes blessures pour arrêter de me les traîner dans mes relations ou toute ma vie ou avec moi-même, en fait ? Donc voilà, mais c'est juste encore pas complètement normal, commun, habituel, quoi.
Pour continuer sur le public, tu parlais tout à l'heure de l'éducation, peut-être de continuer à faire des choses auprès des jeunes enfants, de les maintenir là-dedans. Mmh. Donc à partir de quel âge il faudrait qu'on fasse ça ? Et est-ce que ton public, il est aussi intergénérationnel ?
Moi, je pense que en fait, c'est de... transmettre ça aux personnes qui vont avoir des rôles dans l'accompagnement des enfants, donc les parents. C'est pour ça que je propose un stage là aussi début février, parce que je trouve que c'est hyper important déjà que les parents ils puissent avoir ces notions-là, ce regard-là, pour accueillir l'enfant dans ce qu'il est, dans ses compétences innées. Et après, tous les gens qui vont accompagner des enfants, que ce soit à l'école, dans les crèches, et puis après, collège, lycée ou autre, quoi, mais ou autre structure où les gens accompagnent les enfants. Et après, pour moi, les enfants, ils n'ont pas besoin d'apprendre, en fait. Ils ont juste besoin d'être soutenus.
Soutenus.
Mmh. Et donc, pour moi, ça veut dire...
Il faut que les adultes n'oublient pas que ça, c'est important.
Ouais, c'est ça, qu'ils l'intègrent, qu'ils le vivent, en fait, qu'ils le montrent. C'est tout. Et les enfants, ils apprennent juste par l'exemple. Donc, en fait, ils ont juste besoin d'adultes qui soient conscients d'eux-mêmes et qui soient capables de les accueillir, eux. Et du coup, si nous, on accueille les enfants dans ce qu'ils vivent, dans leurs émotions, qu'on n'est pas en train de nier ce qu'ils vivent, qu'on n'est pas en train de leur dire « arrête de pleurer, mais c'est pas grave, mais tout va bien », ils vont juste apprendre par mimétisme à accueillir les émotions des autres enfants. Il y a des témoignages comme ça d'école ou de crèche même. Enfin, tout petit, en fait, les enfants, hein, ils ont cette empathie, quoi. Et même avant de parler. Et du coup, il y a des témoignages d'enfants qui voient les adultes faire ça avec eux ou avec d'autres enfants et qui vont le faire instinctivement avec d'autres, qui vont dire « Oh, t'es triste !» qui vont avoir ce vocabulaire d'émotions parce qu'ils l'ont entendu. Mais on leur a rien appris, quoi, de manière formelle.
Et est-ce que tu dirais que sur des conférences comme celle-ci, c'est des gens qui ont déjà conscience que cette technique va les aider, qu'ils en ont besoin, ou alors on y vient comme ça, puis on sait pas trop.
Je pense que quand même, c'est des gens qui en ont déjà entendu parler, ouais, un minimum, et qui, soit qui en ont entendu parler, qui ont lu et qui ont envie d'en savoir plus dans du concret, soit qui en ont entendu parler de loin et qui sont curieux de se dire tiens, qu'est-ce que c'est, ou des gens qui sont un peu plus qui vont un peu plus oser, qui en ont entendu parler et à qui ça parle pas du tout, et ils vont se dire tiens, je suis curieux, c'est quoi ce truc en fait,
oui,
parce
même.
Qu'on m'en a parlé mais moi ça me parle pas, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que j'aurais pas capté, et j'aime bien entendre qu'il y a, enfin pas souvent mais quand même assez régulièrement, des gens qui viennent dans des ateliers ou des formations que je fais et qui me disent ah bah c'est cool d'en savoir plus, parce que franchement, je sais pas, ma sœur, ma coloc, ma mère, elle m'en parle et puis elle essaie de faire des trucs avec moi et ça me saoule en fait. Et du coup, j'ai un a priori sur la CNV qui est négatif, qui est le truc chiant, le truc bisounours, le truc relou. Et en fait, quand c'est juste parce qu'on a un aperçu. Mais
pourquoi ça a cette réputation ?
Ben parce que je pense que quand on apprend quelque chose, on est maladroit en fait. Et donc forcément, quand on démarre et qu'on apprend... un processus, ben, on fait des erreurs. Et puis, si on a l'intention de changer l'autre, si on garde cette intention de changer l'autre, même avec la CNV, ben, ça ne va pas donner envie à l'autre. Et du coup, c'est pour ça que j'insiste sur cette intention, quoi. Si on a un plan sur l'autre, si on veut faire quelque chose sur l'autre, c'est mort. C'est sûr que la personne, elle va pas avoir envie. On a tous envie d'avoir le choix. Et pour moi, c'est ça, en fait, qui fait que ça crée parfois une image de la CNV qui est déviée de l'intention première. C'est quand on a une intention sur l'autre et qu'on veut le changer. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme normal dans le processus d'apprentissage, quoi. Voilà.
Ouais. C'est malheureux qu'on veuille changer les autres, non ?
Bah, ça se comprend, quoi. On a envie de vivre dans un monde où ça va bien et où on est content. Et donc, on se dit que c'est en changeant les autres. Mais parce qu'on n'a pas capté que c'est pas possible, juste.
Alors, donc, cette conférence, c'est le 26 janvier, donc 9h midi à l'ESCDD. Et puis, le lundi, tu reproposes un atelier.
Ouais, en co-animation avec Claire Comarmont, qui est aussi une formatrice. Et voilà, on propose un atelier, là, qui va être plus sur des jeux de rôle. Et on va mettre en scène les situations des personnes qui seront là. On va en prendre deux ou trois situations. Et on va mettre en scène et on va inviter les gens à venir avec nous jouer, en fait, et essayer de regarder comment on peut choisir d'interagir autrement dans un dialogue. Donc on va faire les deux phases. La phase où on interagit comme d'habitude, dans le jeu de qui a raison, qui a tort. Et voilà, où chacun se fait des reproches. Et après, on va essayer de jouer un autre jeu de tiens, si j'écoutais l'autre, si j'allais sur sa colline.
Mais qui joue, c'est vous deux ?
C'est nous deux. Ouais. Et après, on invite les personnes à nous remplacer dans nos rôles.
Sur des situations que les gens auront amenées.
Voilà.
Donc là, pareil, il faut être.
Faut être prévenu. Et puis après, on peut très bien aussi juste être spectateur. Hein. Il n'y a pas forcément. Parce que de toute façon, on va en prendre que deux ou trois, vu le temps qu'on aura. Mais c'est super intéressant d'être spectateur aussi et de regarder les possibilités. Ça donne des idées, quoi. Ça dit, ah tiens, ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé que je pouvais répondre comme ça, ou écouter comme ça, ou traduire ce message comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment un nouveau regard qu'on propose. Avant d'être quelque chose à faire, c'est déjà juste observer la vie avec un autre regard.
Et après cet atelier, tu en parlais tout à l'heure, une série de stages, donc là, à destination des parents, c'est hors du cadre
des rencontres.
J'ai pas dit que c'était à la salle Saint-Vincent, hein, les ateliers.
Oui.
Je sais pas où c'est ça d'ailleurs.
Eh ben, c'est une toute petite rue.
La rue Saint-Vincent.
C'est une toute petite rue vers la cathédrale en fait.
C'est ça. Mmh. Ouais. Et donc il y a une salle là-bas.
Ouais.
Bon. Très bien. Et donc c'est ce stage. Alors ça c'est dans un autre cadre.
Dans un autre cadre, c'est.
Faut s'inscrire sans doute.
Oui.
Alors vas-y, dis-nous tout.
Donc c'est un stage pour les parents. Moi-même, je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Et avec une amie, on avait vraiment envie, qui est aussi maman d'un petit garçon de 4 ans, et on avait vraiment envie de proposer un espace pour les parents avec le soutien de cette démarche-là, en fait, cette vision, pour que les parents puissent se rendre compte de qu'est-ce que ça leur fait vivre d'être parent, en fait. Parce que je pense que tout parent peut voir que c'est un chamboulement dans une vie de devenir parent, et que ça vient ça vient activer des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là, quoi. Et forcément, les enfants, ils viennent appuyer pile aux endroits qui font mal. Donc, c'est plutôt que de subir ça dans notre quotidien et d'en vouloir à nos enfants, et ben c'est de se dire « Ah, merci pour le magnifique cadeau ». C'est un peu la même chose qu'avec le jugement, c'est « Merci, qu'est-ce que je vais en faire de ton cadeau ? Comment je vais aller regarder ce que ça me fait vivre et pourquoi ça me fait réagir, en fait ?» Parce que on voit bien, enfin moi je vois bien que je réagis sur des trucs très différents que des amis qui ont des enfants, et les enfants ils font la même chose, ils vont pas réagir, alors que moi ça me fait péter un câble, un truc que ma fille fait et quelqu'un d'autre non. Alors pourquoi moi ça me fait péter un câble? Et bah c'est d'aller me demander qu'est-ce que ça vient toucher chez moi. Et donc voilà, c'est un week-end pour se questionner là-dessus, aussi prendre un temps de pause, échanger avec d'autres parents, parce que souvent il y a la solitude du parent qui a l'impression qu'il est seul à vivre ce qu'il vit, et qu'il est un mauvais parent, parce qu'il n'y arrive pas, ou parce que d'autres lui disent que nanana, parce qu'il a lu, parce qu'aujourd'hui on lit des tonnes de bouquins, on voit des tonnes de vidéos, on a des tonnes d'infos, et donc du coup on se compare tout le temps aux autres et à ce qu'on devrait faire mieux.
Et puis dans le couple déjà, même si quand ça,
déjà,
quand il y a un couple...
C'est ça, voilà, c'est... déjà dans le couple, de voir que moi j'arrive pas, toi t'y
arrives. Ou avec les parents, les grands-parents.
Ça, ou les parents qui nous donnent leurs conseils, qui nous disent comment on devrait faire, mais nous on veut faire autrement, mais voilà, donc on est juste perclus de doutes et de questionnements et de culpabilité. Et donc c'est d'échanger avec d'autres parents pour se rendre compte que bah, en fait, souvent on a les mêmes doutes, on galère aussi sur les mêmes trucs, et qu'on puisse du coup juste se détendre et se dire ok, en fait ça va, déjà ce que je fais là ça va, et voilà, et d'autres vivent la même chose que moi et on se sent juste moins seul avec notre quotidien, parce que en fait ce qui est tragique dans le quotidien des parents, c'est que souvent on est en huis clos, en fait on est en huis clos dans la famille, à la maison, et on tourne avec ça, et en plus bon, là je pense que aussi, dans le DIY, il y a quand même plus de facilité à parler de ce qu'on vit. Mais en général aussi, c'est tout va bien, en fait. On ne va pas dire à l'extérieur que ça ne va pas trop. C'est plutôt, oui, ça va bien, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Mais non, en fait, en vrai, dans le quotidien, le soir, on pète un câble. On n'est pas du tout un peu fatigué. On est juste à bout complètement, au bout du rouleau, on n'en peut plus, on est exténué, quoi. Et c'est d'oser se dire ça aussi, et dire, ah, mais en fait, c'est vrai, toi aussi, quoi. Tu vis ça, toi aussi, tu traverses ça. Voilà, c'est un peu ça l'idée de ce week-end.
Est-ce que tu donnerais comme ça deux, trois grandes choses que tous les parents traversent, histoire de donner envie aux gens de se dire « Ah bah oui, mais moi aussi, allez, j'y vais. »
Par exemple, l'enfant qui n'a pas envie de s'habiller, mais c'est l'heure de partir. Voilà, c'est l'école ou c'est la crèche ou je sais pas quoi.
Donc ça speed, on va être en retard.
Voilà, donc il y a l'horaire, quoi. Donc il y a le stress de l'horaire, parce que nous, en tant qu'adultes, on est garant de l'horaire. Et que nous, peut-être, on a d'autres trucs derrière, et puis juste, on a envie de faire autre chose. Et donc, il y a le stress qui vient, et le « mais habille-toi », et puis après, ça part en bataille, en fait, de « habille-toi », mais non, mais j'ai pas envie, mais habille-toi », mais du coup, après, on force l'enfant, éventuellement, et puis on en arrive à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, pour moi, c'est dans ces situations-là, comment, à un moment, je fais une petite pause, genre juste, je me recule et je me dis « qu'est-ce qui se passe, en fait ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? C'est quoi mon intention, en fait ? Est-ce que mon intention, c'est de forcer mon enfant ? Est-ce que c'est si grave si j'arrive 5 minutes en retard ? Si oui, alors comment je peux, moi, en tant qu'adulte, prévoir de ce temps ou préparer l'enfant bien à l'avance, de lui dire « tu sais, voilà, pourquoi je fais ça et tout ça, pourquoi c'est important ?» Parce qu'un enfant, s'il voit du sens, a priori, il a envie. Et puis, c'est se dire comment je peux transformer ce moment qui est chiant en moment qui est un peu plus ludique. Ou voilà, comment moi, en tant qu'adulte, je vais arriver à m'adapter aussi à la réalité de l'enfant et à pas tomber dans tout le temps dans imposer. Et du coup, m'épuiser. Parce que imposer, ça veut dire s'épuiser. Parce que imposer, ça veut dire avoir la force d'imposer. Et pour avoir la force d'imposer, bah, ça demande de l'énergie, en fait. Et des fois, on en arrive à des comportements qu'on n'a pas envie d'avoir, mais qui nous dépassent, quoi. Les réflexes.
Physique, par exemple.
Ou des mots, ou des cris. Voilà, et du coup, c'est aussi, en tant qu'adulte, c'est comment je sais accueillir mes émotions et comment je les exprime d'une manière qui ne fait pas mal à l'autre. Et que je les exprime quand même, parce que si je ne les exprime pas, ça me fait mal à moi. Si je me contiens, voilà, ça me fait mal à moi, et l'enfant, il sent bien qu'il y a une tension. L'enfant, il sent x10 le non-verbal et ce qu'on dit pas. Donc voilà, par exemple, ça, il y a quoi d'autre ?
Très bonne situation.
Voilà, la situation classique.
Ouais, voilà. C'était ce que je voulais.
Voilà.
Alors, comment on s'inscrit ?
On peut s'inscrire soit sur Facebook, sur ma page, Clémence Lataste Formation, ou bien par mail, ou sur mon téléphone, on m'appelle. Et après, il y a un bulletin d'inscription en ligne. Voilà. Peut-être on peut mettre les coordonnées.
Tout à fait, on mettra tout ça.
Voilà.
Et ça se passe où ?
Et ça se passe à Habiter, à Die, du coup. Voilà, du samedi matin au dimanche 16h30.
Il y a un coût ?
Ouais, le coût c'est entre 190 et 300. Attends, j'ai un doute là sur le prix.
Pourquoi il y a une fourchette ?
La fourchette, c'est pour faire que ça soit accessible aussi, que ça soit pas. Nous, le prix en fait qu'on voit, qui est l'équilibre pour nous, c'est 200 par personne pour le week-end. Mais ça, voilà, on a envie de faire que ça puisse être moins. Et même, ça peut être moins que 190. Et ça peut être voilà, ça peut être plus. Enfin, c'est aussi pour laisser la possibilité aux gens. Ça donne une idée pour nous de ce qui est équilibré dans le budget global, de ce que ça nous coûte. Mais après, on est complètement ouvert aussi aux gens qui peuvent pas payer ça et qui ont envie de venir quand même et que ce soit vraiment pas un frein. Parce que le but, c'est que, voilà, c'est que ça soit pas trop coûteux non plus pour les gens et qu'ils puissent s'offrir ce temps de ressourcement, quoi. Et en même temps, que pour nous, ça soit équilibré et qu'on perde pas juste... enfin, voilà, qu'on s'y retrouve aussi. Voilà. Mais du coup, je sais pas, pour le prix, faudra que je te dise un truc précis ou...
Bah non, c'est pas grave. Okay. Il y a la fourchette basse, elle était 10, voilà. On peut monter.
Voilà, c'est 190, à partir de 190 euros, on peut dire.
Ok, c'est très bien.
Voilà, et on peut rester sur place, et c'est une participation libre pour dormir le samedi soir.
Bon, bah, plusieurs rendez-vous avec donc Clémence Lataste. Hein. Cette conférence le 26 janvier dans le cadre d'Écologie au quotidien. Donc ça, c'est le lundi.
Le dimanche.
Le dimanche, pardon. L'atelier le lundi.
Matin, ouais.
Matin, le 27. Et donc ce stage, rappelle-moi la date.
1er et 2 février.
1er et 2 février. On a tout dit ?
Ouais. Ah non, il y a une dernière chose.
Ah.
Aux rencontres de l'écologie, il y aura un petit stand tenu par des bénévoles qui vont proposer des temps d'écoute. Gratuit. Et voilà, et où du coup les gens peuvent venir s'inscrire.
Les bénévoles que tu as formés ?
Pas que, mais un peu. Mais ils ne sont pas tous formés par moi, mais certains oui. Et donc voilà, où les personnes peuvent juste venir et être écoutées, ce qui est quand même super rare dans notre quotidien, être vraiment écoutées. Donc il faut avoir un quart d'heure, 20 minutes pour.
Ils diront rien ?
Ils peuvent dire rien, ils peuvent être en silence, ils peuvent dire.
Les bénévoles,
les bénévoles, non, ils diront rien, ils seront juste là, présents. Donc soit ils vont dire ce qu'ils comprennent de ce que la personne dit, soit voilà, ils vont être juste là en accueil de ce qui se passe pour l'autre. Et la personne, elle peut juste expérimenter, tiens, qu'est-ce que ça fait d'être entendue ? Ou tiens, il y a un truc qui m'agace en ce moment, ou qui me contrarie, ou qui me questionne, ou je sais pas quoi en faire, ou j'hésite à aller à tel atelier ou tel atelier, tiens, je vais prendre un temps d'écoute pour voir c'est quoi qui est le plus important pour moi.
C'est voilà. Le retour du confessionnal, ça, un peu, non ?
C'est un peu ça, ouais. C'est le confessionnal, mais sans le jugement de Dieu, quoi, en gros.
C'est, oui, c'est vrai.
Tu es bienvenue avec ce qui se passe, avec ce que tu as, avec ce que tu vis.
Il n'y aura rien à faire après.
Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de travaux, de réparation, je sais pas quoi. C'est juste que la personne puisse être voilà, accueillie dans ce qu'elle vit et pleinement écoutée.
Donc ça sera tout le long des rencontres ?
Non, ça sera samedi, dimanche et lundi. Donc ça va être voilà, juste le premier week-end et le lundi.
Merci Clémence.
Bah merci à toi.
À la prochaine.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.